The reason that I'm speaking out is because I think Facebook has become too big, too powerful.
Alors ça, c'est le cofondateur de Facebook avec Mark Zuckerberg, Chris Hughes, qui trouve que Facebook, Mathieu, est devenu trop gros et trop puissant.
Oui, une lettre ouverte publiée dans le New York Times d'aujourd'hui, a donné des entrevues aussi à NBC News. C'est le cofondateur de Facebook, tu l'as dit. Il dit notamment, le Facebook d'aujourd'hui n'est pas le Facebook que nous avons fondé en 2004. Et celui que nous avons aujourd'hui est bien trop gros, il est bien trop puissant. Et surtout, Mark Zuckerberg n'a de compte à rendre à personne. Faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus que juste le réseau social que vous connaissez parce que détient Instagram, qui est un autre réseau social basé sur la publication d'images et aussi de publications éphémères, donc qui s'efface après un certain temps, que ce soit de courtes vidéos ou encore des photos. WhatsApp, qui est là aussi une application, mais dans ce cas-ci, de messagerie. Il dit notamment, donc, le nombre d'utilisateurs cumulés de Facebook, Instagram et WhatsApp avoisine les 3 milliards, donc presque 40% de l'humanité. Chris Hughes a quitté Facebook en 2007. Il a vendu ses dernières actions en 2012, sauf erreur. Il dit qu'il ressent un peu de culpabilité par rapport aux conséquences négatives du réseau social sur la société actuelle. C'est pourquoi il a fait cette longue lettre ouverte. Parle de pistes de solutions aussi. Et là-dedans, ben, il joint sa voix à d'autres personnes qui pensent que le gouvernement devrait forcer Facebook à se départir, entre autres, de ses acquisitions comme WhatsApp et Instagram pour avoir une véritable concurrence. Et on devrait créer une nouvelle agence gouvernementale parce qu'il donne l'exemple, entre autres, que les compagnies aériennes ou les entreprises pharmaceutiques ne s'auto-régulent pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance aux réseaux sociaux pour, dans leur cas, faire leur propre réglementation? Et Paul, je te ramène lorsque Mark Zuckerberg avait témoigné devant le Congrès et le Sénat américain. Rappelle-toi de cet échange avec le sénateur Lindsey Graham. Et cet échange-là est intéressant parce qu'il montre bien l'éventail des services que propose Facebook. Je vous fais entendre ceci.
Who's your biggest competitor?
Senator, we have a lot of competitors.
Who's your biggest?
The other tech platforms, so Google, Apple, Amazon, Microsoft, we overlap with them in different ways.
Is it an alternative to Facebook in the private sector?
Yes, Senator. The average American uses 8 different apps to communicate with their friends and stay in touch with people, ranging from texting apps to email.
Which is the same service you provide?
Well, we provide a number of different services.
Is Twitter the same as what you do?
It overlaps with a portion of what we do.
You don't think you have a monopoly?
It certainly doesn't feel like that to me.
Okay.
Oui, un échange où le sénateur Graham, faisait étalage de ses connaissances plutôt limitées des outils comme Facebook ou Twitter.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que Mark Zuckerberg voit des concurrents partout parce que pour lui, c'est pas un monopole, parce que c'est vrai, Facebook a des concurrents dans les médias, chez les annonceurs, dans les réseaux sociaux, dans les services de messagerie, dans les applications de rencontres, sauf qu'il n'y a que Facebook qui fait tout ça. Donc, Facebook, effectivement, dans ce cas-ci, je veux dire, même si Mark Zuckerberg ne le reconnaît pas, Facebook est en situation de monopole. Il n'y a rien qui va remplacer Facebook à très court terme, en tout cas.
Un projet de loi américain a été déposé et il vise l'interdiction de certaines microtransactions dans les jeux vidéo.
Et Paul, c'est pas la première fois qu'on parle de ça parce que je sais que ça interpelle notre public. Je sais que pour des parents, c'est un casse-tête. Ils achètent un jeu et par la suite, eh ben, le jeu peut se bonifier en faisant des achats à même ce dit jeu. Moi, j'ai de la main-d'œuvre grâce aux microtransactions dans les jeux vidéo. Moi, j'ai pas de difficulté dans mon quartier à trouver un déneigeur, un jeune pour promener mon chien ou tondre le gazon. Il y a des enfants dans mon quartier qui veulent des sous pour pouvoir acheter des tableaux, pour avoir acheté de nouvelles armes ou encore des vêtements dans leurs jeux vidéo. C'est que le problème, c'est que dans certains jeux et dans certains cas, ce qu'on achète peut donner un avantage dans le jeu. Et là, c'est un projet de loi qui a été proposé par un sénateur républicain qui propose d'interdire les microtransactions qui peuvent offrir un avantage aux joueurs. Il y a une expression pour ça, on dit « pay to win ». Donc, si tu mets de l'argent, tu vas avoir un avantage plutôt que d'avoir à traverser les différentes étapes du jeu. Et il y a aussi le dossier épineux de ce qu'on appelle les loot box ou les boîtes à surprise. Ce sont des espèces de boîtes virtuelles qui vont récompenser les joueurs pour leurs efforts ou leur temps de jeu, mais qui peuvent être vendues aussi. Et là, dans ce cas-ci, ça entraîne des habitudes compulsive qui se rapproche du gambling. Tu vas dépenser des sous pour avoir peut-être quelque chose qui va te donner un avantage. On veut vraiment encadrer ça, et c'est une très bonne chose, à mon avis.
Merci, Mathieu. À demain. Au retour de la pause, avant nos chroniqueurs, une petite conversation avec Régent Ouimet de Météo Média. Il va pleuvoir à partir de ce soir, et beaucoup.